Et oui, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session de Neon Squad. Je suis ce soir en compagnie de ce cher Anthony, comme d'habitude.
Comment tu vas, Anthony ? Bonsoir à tous, et bien je vais super bien, comme chaque soir, je suis fidèle au poste, présent. Et toi, comment ça va, Alexis ?
Bah écoute, une semaine chargée en émotions et en plein d'autres choses, en e-sport bien sûr notamment. On va parler un petit peu du CAF Fnatic, un cas très tragique. Mais également aussi nos camarades de 56K qui nous ont bien pompé de l'information dans leur émission juste avant, parce que j'avais pas mal de choses à annoncer qu'ils ont déjà dit. Mais on s'en fiche, Anthony, parce que nous étudions ça avec un œil expert qui n'est pas le leur.
Exactement.
Assez malotru qui vole l'information des autres. C'est honteux. En tout cas, on les embrasse, sont très sympas. voilà, donc on a pas mal de choses à se dire ce soir. On a pas mal de contenu à apporter comme d'habitude. Aussi des grosses annonces du côté de Solary, notamment sur la scène Smash. Smash Bros, puisque Solary a décidé d'investir sur cette scène, ce qui est une très bonne nouvelle pour la licence, hein, parce que oui. Nintendo va être très content d'avoir beaucoup plus de visibilité quand on sait que aujourd'hui Solary est probablement la plus grosse structure en termes de streaming française.
Ça tombe bien, on en parlait la semaine dernière, hein, du futur de Smash Bros et de la potentielle évolution dans l'e-sport. C'est plutôt pas mal.
Ah, c'est même une excellente nouvelle. Et pour le coup, on avait également parlé du fait que Gluttony, le joueur français, était très prometteur et probablement le meilleur joueur européen à l'heure actuelle. Et ben voilà, il attendait de trouver une équipe, il en a trouvé une. Solary a donc recruté Gluttony pour représenter Solary et Enki pour représenter Lunary. Donc Enki qui est un OTP Pikachu. Oh. Et qui est excellent aussi. Deux très 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 gros joueurs qui ont d'ailleurs tous les deux gagné le Valhalla récemment. Et Gluttony qui a fini premier en solo. Et tu sais, je t'avais expliqué qu'il avait fini premier en solo et on l'avait expliqué d'ailleurs. Et du coup, Enki qui avait gagné avec ce cher. Je perds mes mots. Avec ce cher Gluttony en duo. Voilà. Donc c'était la bonne nouvelle. Après, donc on pourra voir un petit peu. Ils ont également annoncé un joueur de DBZ Fighter.
DBZ Fighter, ouais, c'est pas étonnant, hein. C'est un jeu assez complexe, assez exigeant, donc en termes de e-sport, je pense que ça a bien sa place.
Ça a du potentiel, je pense. Après, je connais pas très bien le jeu, j'avoue.
DBZ Fighter, il est vraiment assez exigeant, il est vraiment pas mal, et même en termes de regard, c'est-à-dire que si on visionne voilà un match de DBZ Fighter, on en prend plein la face, on s'ennuie pas à aucun moment parce que c'est super rapide, c'est super précis. C'est ça qui est super bien, c'est un peu comme Smash Bros, hein. Personnellement, moi, quand je regarde des matchs de Smash Bros, je m'ennuie absolument pas. Donc là, pour la scène e-sport, franchement, DBZ Fighter, c'est vraiment une bonne idée d'investir là-dedans, je pense.
Bah, c'est une bonne chose. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, après, c'est vrai que je t'avoue que je vais essayer de suivre un petit peu ça avec un peu plus d'attention. Il y a aussi, on en a déjà parlé, en plus, je crois, dans cette émission, enfin, du jeu, là, qui était le gros crossover entre tous les personnages de vidéo et de manga.
C'était oui, quoi, déjà Jump Force.
Jump Force, pareil, Jump là, Force. Ça commence à se dévoiler encore un peu plus. Il y a même des personnages de JoJo's Bizarre Adventure, qui est mon manga préféré, donc je vous.
Un manga préféré?
Ah, j'adore.
Bah, personnellement, j'ai toujours regardé JoJo Bizarre Adventure de manière un peu lointaine. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange, justement. Mais
c'est très
mais
étrange.
Ça avait l'air plutôt pas mal.
Bon, pour résumer à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce manga, tout simplement, c'est l'histoire d'une dynastie, la dynastie des Jojo. Donc en fait, c'est parce que leurs prénoms, leurs initiales veulent tout le temps dire Jojo à chaque nouvelle saison. Et chaque saison représente un protagoniste qui est par la suite, on voit ses descendants en fait des générations suivantes. Très intéressant et c'est bizarre parce que justement, il y a entre chaque saison et chaque personnage un contexte différent et un type de manga différent. Par exemple, là, moi, je regarde notamment en animé la saison 5. Et c'est là, c'est un univers mafieux.
Ah ouais.
Donc, qui est très orienté vers la mafia, etc. Avec des pouvoirs un peu étranges également qui apparaissent au fur et à mesure du manga, alors qu'au début, on ne s'y attend pas du tout. Après, la saison 2, je sais que c'est plus orienté à la Indiana Jones, un peu dans ce type de registre. Donc, c'est très, très varié. L'histoire est d'ailleurs très, très bien amenée. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que malgré la diversité et l'originalité du contenu, c'est toujours super bien amené. C'est assez brillant.
Ouais, tel que tu me le décris là, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air très très original.
Ouais, si. Bon, après la première saison est peut-être un petit peu longuette, c'est pas forcément la meilleure, mais une fois qu'on a passé la troisième, ça commence vraiment à devenir énorme.
Oh,
donc j'encourage d'ailleurs nos chers auditeurs à aller y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, on parlait aussi donc d'investissement et nos amis de 56K en ont parlé avant, mais mon cher Anthony, d'ailleurs, on va parler un peu de ça maintenant. Est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle concernant Farming Simulator ?
Farming Simulator. Personnellement, j'ai entendu, il me semble, parler de quelque chose genre entre e-sport et Farming Simulator. Est-ce que je suis chaud là ou pas du tout?
T'as dit quoi? Excuse-moi. Oui, effectivement,
il y a une
scène e-sport qui va se créer sur Farming Simulator.
J'ai vu la nouvelle. J'ai pas cliqué sur l'article, je me suis dit c'est une fake news.
Et mec, c'est absolument pas une fake news et c'est absolument énorme. Farming Simulator donc qui va se voir investir 250 000 euros dans une compétition.
Wow.
Ça va être génial. C'est
ouais.
Et je trouve ça super intéressant parce que Farming Simulator a quand même une grosse scène de joueurs contrairement à ce que les gens pensent.
Tout à fait, exactement.
Il y a pas mal de monde qui joue.
Il y a vraiment énormément de personnes qui jouent à ce jeu et justement les opus sont très très attendus. Et d'un côté c'est cool parce que Farming Simulator c'est un peu le grand public quand même qui joue ou des personnes qui sont passionnées par justement l'univers agricole. Il y a quand même une grosse communauté et si effectivement ça s'ouvre à l'e-sport, ça va faire en sorte que d'ouvrir l'e-sport en quelque sorte à un public encore beaucoup plus large.
C'est ça et qui puis est cool. C'est très accessible, je veux dire, tout le monde connaît à peu près comment fonctionne une ferme, peut-être pas à la perfection mais on peut facilement comprendre les mécanismes. Là où par exemple des jeux de farming un peu plus orientés StarCraft par exemple qui sont plutôt des recherches de l'accumulation de ressources etc le plus efficacement possible, c'est très abstrait et parfois complexe à représenter au public non averti. Et en l'occurrence là, Farming Simulator sera parfait quoi, je veux dire là,
c'est clair,
là les gens vont comprendre tout à fait les enjeux,
la gestion d'une ferme, tout ce qu'il y a de plus basique. Après il y a des mécaniques de gameplay pour y avoir un jeu un petit peu qui sont assez complexes. Voilà, ouais, par contre je suis intéressé de savoir comment ils vont faire pour créer cette compétition. Quels seront les enjeux? Quel sera le but au final? Peut-être récolter les ressources le plus rapidement possible dans un délai imparti et autres.
Ouais, je suppose que ça va être ça. Il va y avoir, mais bon, ce sera apparemment du 3 contre 3, d'après ce que j'ai pu lire. Et effectivement, ça va être de l'accumulation de ressources. Celui qui est le plus efficace, qui atteint un certain objectif. Je sais pas encore comment ça s'agence. De toute façon, je savais même pas qu'il y avait un système de compétition là-dessus, un système de ranked. J'en ai aucune idée.
J'en ai aucune idée. Et j'ai joué partie solo. C'est tout.
Tu as fait cette expérience quand même une fois dans ta vie.
Exactement. Une bonne nouvelle. Je voyais que pas mal de gens à côté de moi y jouaient. Alors du coup, j'ai voulu tester. Et au final, j'ai pas accroché non plus, hein, mais.
Mais c'est ça, allez, c'était sympa quand même.
C'est ça, exactement.
Non, mais oui, effectivement, ça va être super intéressant. Moi, en tout cas, je vais regarder parce que je suis curieux. J'aime bien, je regarde beaucoup d'e-sport en général. Donc, ça va être l'occasion de voir un peu de nouveaux spectacles. Mais on aura l'occasion d'en discuter. En tous les cas, mes chers amis, je vous propose d'écouter un petit peu de musique pour faire une petite pause tranquille. On va s'écouter Puggy et leur live à l'ancienne Belgique. When You Know. Et ensuite, on s'écoutera... qu'est-ce qu'on s'écoute après? Ensuite, on va s'écouter un petit... est-ce que t'as vu cette série, mon cher ami, Last Man? Est-ce que ça te parle?
Ça me parle pas du tout.
C'est une série qui sort sur Netflix, un animé très sympa, et on écoutera le thème, justement. Et on se retrouve juste après sur Radio Plus. We'll be right back.
When you know, when you know. Let's turn it. Here we go. When you know, know, know. When you know, know, know. When you know, 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 know. When you know, 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 know. When you know, 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 know. When you know, 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 know. When you know, 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 know. When you know. You want to sing some more? Est-ce que vous voulez encore chanter?
Et oui, toujours sur Radio Plus dans Neon Squad. Alors, pas mal de choses à dire encore une fois. C'était un très bon morceau de The Last Man. Enfin, en tout cas, c'était une très bonne série que je conseille à tous ceux qui ne la connaissent pas. Quoi qu'il en soit, on va parler un petit peu de League of Legends, bien sûr, avec une situation catastrophique pour l'équipe vice-championne du monde. Effectivement, les Fnatic ont de très très gros soucis à performer sur ce début de LEC. On est à 0-4 pour l'écurie vice-championne du monde. C'est du jamais vu. Enfin, en tout cas, je les ai jamais vus dans cet état-là, ce qui est quand même assez inquiétant. On rappelle que ils ont changé quelques joueurs, notamment la midlane qui était Caps avant et qui est parti chez G2. Maintenant, c'est remplacé par Nemesis, le jeune talent. Qui était chez Mad Lions, donc un très très bon joueur, qui est arrivé dans la line-up, qui a eu pour le coup un peu de mal à lane, mais bon, après il était dans une situation pas favorable avec des match-ups négatifs, donc le joueur a fait de son mieux, mais là sur la dernière game qu'il a joué avec sa Cassiopeia, c'était clairement pas le point faible. On se pose beaucoup de questions sur la line-up. Bouipo, qui était un rookie qui avait commencé la saison dernière, qui avait remplacé Soaz, le pilier de la top lane, le plus ancien des joueurs de League of Legends, le joueur français Paul Boyer, qui était Soaz, qui est parti chez Misfits. Donc on est dans une situation compliquée pour les Fnatic, et on se demande à ce moment-là comment on relève la tête. Anthony, à ton avis, comme d'ailleurs ça ne concerne pas uniquement l'e-sport, hein, ça peut aussi concerner le sport classique, les athlètes plus conventionnels, comment on fait quand on est sur une série de défaites comme ça, qui a une sorte quand même d'inquiétude, les fans sont quand même inquiets, parfois insultants, bon c'est pas mon cas, mais parfois très négatifs, et elle leur reproche beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation pour se redresser? Compliqué, hein.
Ah, c'est très très compliqué. Pour moi, la seule possibilité lorsqu'on est comme ça dans une série de défaites, c'est de prendre du recul, avant tout, vraiment prendre du recul, examiner la situation, examiner vraiment en détail, de manière factuelle, les points forts, les points faibles, ce qu'il faudrait améliorer et bosser, hein, parce que clairement, si effectivement il y a des défaites pour cette équipe là qui est quand même une équipe qui dispose vraiment de beaucoup de talent, qui a beaucoup de talent, c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas, que ce soit niveau moral ou niveau envie. Il y a potentiellement, voilà, peut-être une étincelle qui manque là-dedans. Donc je pense que voilà, il faut prendre du recul, se remettre en selle et rapidement, hein, parce que sinon, si effectivement ils continuent comme ça sur une série de défaites, bah, ça va être fini, ils vont perdre de la valeur, et voilà, ce sera une équipe
bah, c'est ça, terminée, et surtout que bon là, en fait c'est pas, on rappelle que le LEC, donc les LCS en général, ça se joue sur deux splits, donc avec en tout 9 rencontres aller-retour, donc 18 matchs, donc on part déjà avec 4 défaites sur 18 matchs. Bon, s'ils font 2 défaites de plus, c'est déjà un tiers de défaites, ce qui est quand même vraiment énorme. Et c'est compliqué de revenir après sur ces matchs-là où il y a des équipes qui sont au contraire très très fortes. On pense à G2 Misfits qui sont absolument incroyables, qui explosent toutes les teams. Il y a Schalke et Splice qui sont pas mauvaises non plus. Enfin voilà, il y a des grosses équipes en face. Donc ils ont intérêt à reprendre du poil de la bête. La question c'est, est-ce qu'on fait aussi, et cette question qui se pose beaucoup, parce que maintenant toutes les équipes ont des line-up secondaires, donc des équipes 2 entre guillemets, est-ce qu'on pense à changer un joueur, est-ce qu'on réfléchit à peut-être la stratégie globale? On voit qu'ils ont un peu du mal à se trouver, parce que bon, on rappelle que sur LoL, Fnatic a toujours été une équipe avec une forte identité de jeu, ils ont souvent un style de jeu bien défini, et là pour le coup, ben, leur identité, on la voit pas trop, quoi, genre c'est un peu compliqué pour eux de trouver... Mais bon, après, bon, c'est normal aussi, ils sont sur une période de transition, ce qui est compliqué pour beaucoup de joueurs. On a Nemesis qui est un joueur débutant, qui arrive avec toute la pression sur ses épaules parce qu'il remplace le meilleur joueur européen et peut-être même du monde. Donc t'imagines, c'est comme un jeune de 18 ans qui remplaçait Zinedine Zidane à l'époque.
Ah ouais,
quoi.
Clairement,
il y a du poids sur les épaules.
La grosse pression, la pression que ce soit des fans ou la pression directement de ses coéquipiers. C'est vrai que ça doit être très difficile à gérer.
C'est extrêmement dur, et puis bon, les fans sont pas tendres avec lui non plus, parce que bon, forcément, comme leur équipe perd du jour au lendemain, on prend justement le premier changement qui pourrait justifier ça, et le pauvre, même s'il est pas responsable, ben il en subit les conséquences, et c'est quand même assez triste. Mais voilà, donc on leur souhaite en tout cas bien du plaisir pour revenir au cours de ces LEC. Moi personnellement, je suis pas trop inquiet, parce que la structure a montré plusieurs fois que elle avait du mal avec ces périodes transitoires là, mais que avec un peu de temps, elle arrivait souvent à corriger les défauts, voire même à décupler le niveau de leurs joueurs en assez peu de temps, ce qui est assez impressionnant. Mais oui, effectivement, en tout cas tout le monde les soutient fortement, et on espère que ça va s'arranger. Aussi, c'est aussi Carlos, donc Ocelot, qui a parlé de sa structure G2, donc on est toujours sur du LOL. Mais là, c'est plus le côté, comment dire, marketing de la chose. Donc Ocelot qui prétendait, parce que bon, là, on rappelle que G2 a quand même la réputation d'être les gros méchants de la LEC, de la scène League of Legends. C'est des mecs qui sont quand même très trash talk au quotidien, ils parlent tout le temps mal, genre ils font des petites vannes à droite à gauche pour tacler les joueurs. Et ce qui fait leur charme en fait, hein, ils ont un peu un rôle de némésis, tu vois, quelque part, hein, des méchants, tu vois, un petit peu.
Et il en faut pour créer un peu de storytelling, comme
de
tu dis,
hype.
C'est bien.
C'est ça, de c'est hype. Ça. Et pour le coup, il a fait une interview, il expliquait qu'il c'était pas des méchants, mais juste des mecs qui aimaient se marrer, quoi. Et donc en fait, il dit concrètement, quand on met des tweets, faut pas les prendre au premier degré, mais plus au second, parce qu'on s'amuse. Et d'ailleurs, dans les locaux, on s'amuse beaucoup. Et je trouvais ça super sympa comme a priori. Et du coup, en fait, son objectif en prenant en cap sa Fnatic, c'est de créer une line-up entièrement de mecs qui s'éclatent. Parce que pour lui, c'est ce qu'il faut dans le jeu vidéo, c'est de s'éclater.
Clairement, bah c'est le but premier du jeu vidéo. Hein. Si on joue, si on fait de l'e-sport juste dans l'optique de gagner, bah voilà, c'est pas cool. Hein. C'est les meilleurs joueurs pour moi, c'est les joueurs qui ont la passion, qui s'amusent, qui s'éclatent.
Et au final, et qui, ça peut laisser extérioriser le talent.
Okay. Ah ouais, clairement.
Mais oui, c'est pour ça. Et du coup, pour le coup, bon bah malgré tout, il a pris caps quoi. Donc c'est quand même. C'est pas n'importe quel joueur, le mec est excellent, mais effectivement, il y a une très bonne synergie d'équipe, les mecs se marrent à mort, ils font des stratégies absolument absurdes, je sais pas, les mecs ils sortent des trucs improbables, parce qu'en fait, si tu veux, Perks qui était midliner avant est passé à DC. Uh-huh. Donc ils ont deux midliners dans l'équipe, Caps et Perks qui jouent ensemble, alors Perks est capable de jouer des ADC bien sûr, mais globalement, des fois, la dernière fois, il a joué une Zoé bot, quoi, et du coup, c'était rigolo, parce que, en plus, c'est la méta du Karthus jungle, donc, ça joue Karthus, ça tire l'arigot, c'est, bon, moi, j'aime pas trop, parce que Karthus, pour moi, enfin bon, le perso, il dessine à mourir, et il fait que press R tout au long de la game, donc c'est, voilà, quoi, c'est un peu particulier, mais, c'est méta, du coup, les mecs jouaient que des trucs poc, et puis, au dernier moment, Karthus mettait son ulti, tuait tout le monde, quoi, c'était vraiment curieux, et les mecs, ben, ils sont premiers, ils ont perdu aucun match, à l'heure actuelle.
Ah, justement, ça permet, cette synergie d'équipe et ces techniques improbables, ça permet au final de faire en sorte de surprendre l'ennemi et de faire en sorte, voilà, l'ennemi ne pourra jamais faire en sorte, voilà, de déceler quelconque stratégie particulière. C'est plutôt pas mal. Puis cette synergie d'équipe, le fait qu'ils se marrent entre eux et tout, ça renforce les liens dans l'équipe. Et au final, bah, t'as très peu de rage, très peu de prise de tête et du coup ça fait une équipe beaucoup plus soudée.
C'est
dans,
ça,
dans
et puis une bonne entente, ça permet aussi de plus facilement mettre en place différents systèmes, quoi, tout simplement.
Ah, clairement.
Les mecs se connaissent bien, ils savent comment joue l'autre, voilà, ils savent absolument comment se comporter dans l'idéal.
Je pense qu'on a tous fait l'expérience de jouer vraiment pour se marrer et de se rendre compte qu'avec ses potes on était vraiment bon parce qu'on prenait du plaisir, on se marrait et autres, et pourtant voilà, même quand on perdait dans l'adversité, voilà, on repartait et puis pour de plus belle, et voilà, tandis que quand on se met vraiment en mode e-sport, en mode droit et tout ça.
Bon, après je t'avouerai, mon cher Anthony, que moi je suis dans la deuxième catégorie, le mec qui rage et qui se fait dans la catégorie e-sport et qui ne sait pas prendre de plaisir.
Mais du coup après ça te dégoûte du jeu, non?
Mais non mec, parce que moi je suis comme ça, tu vois, genre je suis un gars qui s'accroche jusqu'au bout même s'il a plus,
performer.
Genre qui se pète les doigts avec des, qui a plus d'ongles mais qui continue de jouer quand même, un tryharder, je suis un tryharder de l'extrême et je suis un mec nul en plus. C'est ça qui est terrible, c'est que un mec nul qui tryhard, c'est à quelques degrés du pathétique, mais après bon, en vrai je m'amuse bien quand même, ce jeu me plaît beaucoup et j'aime beaucoup suivre la scène e-sport, bien sûr, hein, comme tout le monde le sait d'ailleurs, je pense que je suis plutôt reconnu pour ça, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir l'évolution tout au long de tout simplement l'évolution de l'e-sport, quoi, qui est quand même en train de prendre des ampleurs absolument disproportionnées. Quand on pense que Farming Simulator va être un jeu e-sport, c'est quand même incroyable. C'est se dire.
C'est incroyable. À quand Euro Truck Simulator 2, ce serait génial.
Mais il y avait un jeu d'ailleurs, comment ça s'appelle ce jeu, un jeu de voiture là, où tu crées des circuits, comment ça s'appelle, tu dois connaître toi ce jeu là.
Trackmania,
mais Trackmania aussi c'est e-sport d'ailleurs.
Oui, Trackmania, oui, bien sûr.
C'est génial aussi ce truc là, genre.
C'est génial, mais c'est tellement insane en termes de
skill cap.
En termes de skill, c'est. Il faut être vraiment avoir énormément de skill pour réussir des circuits parfois improbables. Il y a énormément de vidéos sur YouTube dans lesquelles tu vois et les gens font des tricks de ouf. C'est complètement,
c'est génial,
c'est complètement, ouais, c'est génial. Franchement, Trackmania.
Mais c'est Zerator qui fait une compétition là-dessus. D'ailleurs, il avait un joueur sur son écurie, donc c'était Carl JTM, quelque chose comme ça, qui pour le coup a été recruté par Solary également, en même temps que Gluttony et compagnie. Donc ils auront même de l'e-sport sur Trackmania, ce qui est génial. Ça promet d'être super intéressant de voir tous ces nouveaux streamers arriver quoi sur cette scène Twitch qui commence à être de plus en plus dense. C'est compliqué maintenant pour percer sur Twitch. Je pense qu'il faut être vraiment nombreux. Puis bon, surtout en ce moment avec le rush de LoL, bon courage pour déloger League of Legends qui est premier. Hein. Fortnite n'est plus premier en ce moment.
Il repassait premier League of Legends.
Bah c'est normal, c'est début de saison, tous les streamers rush. Enfin, je sais que Narcus, alors ça c'est génial, Narcus là, alors le classement a commencé début de semaine dernière, je crois, et a dû commencer mardi ou mercredi. Narcus a déjà fait plus de 120 games, je crois. Il fait 25 games par jour, je crois, un truc comme ça. Enfin, il spam quoi, genre.
Il est au taquet.
Et il est master. Du coup, il est passé master. Il est dans les 10 premiers du ladder, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est plutôt cool. Bon, après, il va pas rester très longtemps, hein, quand tout le monde aura rattrapé son retard, il va encore finir loin, mais c'est intéressant de voir comment ça tryhard un petit peu. Bon, mon cher Anthony, je propose qu'on fasse une petite parenthèse qui n'est pas e-sportive, mais qui, à mon sens, mérite d'être présentée. Moi, je vais te parler d'un petit groupe de musique très sympa.
Oh oh.
De la Mitonie, que tu connais d'ailleurs, qu'on embrasse. Petite dédicace, TMTC. ce cher Tony et sa copine Amélie, qui, pour le coup... On a une petite page Facebook, enfin une petite page qui est deux fois plus importante que notre, mais c'est pas grave, ne le précisons pas, qui s'appelle Yelly Town, et donc ils font des reprises musicales, tout simplement. Ils sont très bons chanteurs, lui il est guitariste et chanteur, et sa chère et tendre est une très bonne chanteuse également, et du coup ils ont fait une reprise qui à mon sens mérite d'être écoutée, on aura l'occasion de l'écouter là dans une ou deux minutes, de Bohemian Rhapsody. Donc, est-ce que tu vois le chef-d'œuvre?
Tout à fait, exactement.
Très compliqué à reprendre.
Très compliqué, très complexe.
Bien sûr, chanté par Queen.
Exactement. Vraiment. J'ai pas écouté avant, mais.
Mais tu vas voir. Je vais vous faire écouter juste après. Vous allez voir, c'est assez sympa. Pour le coup, je trouve que c'est une très grande réussite. Et ils ont de quoi être fiers. Et je vous encourage d'ailleurs à aller liker leur page Facebook. Je rappelle donc Yelly Town. Donc, alors, pour les plays, c'est Yelie. Et plus loin, bien sûr, Town, T-O-W-N. Je répète. Yelie et plus loin Town. Donc je vous encourage vraiment à aller liker leur page. Ils font du contenu très sympa. Donc je crois, si je me souviens bien, c'était un titre par mois avec la possibilité de mettre un commentaire, et ceux qui auront le plus de likes seront choisis et seront travaillés, donc préparés à l'avance, etc. Avec souvent un petit clip super sympa, bien monté. Enfin voilà, une équipe du choc qui travaille avec passion, amour, voilà, comme nous, hein, tu vois, Anthony.
Et volupté, j'ai envie.
Exactement, et volupté, je pense que c'est le mot. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de passion comme nous, et je pense que ça mérite d'être mis en avant. Du coup, je vous encourage à liker leur page YouTube également, parce qu'ils ont une page YouTube du même titre, du même nom, Yelly Town. Donc surtout, n'hésitez absolument pas. Mettez vos morceaux préférés, mettez des morceaux compliqués pour les emmerder, c'est encore plus rigolo. On se fera un plaisir d'aller liker tout ça, mais... on va s'écouter ça tout de suite et je vous propose de les retrouver donc pour Bohemian Rhapsody. Donc c'est un magnifique cover présenté par Yelly Town. On se retrouve juste après sur Radio Plus. Ça va commencer. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Absolument incroyable ce morceau interprété par Yaeli Town, donc une reprise du très célèbre Bohemian Rhapsody de Queen et de leur chanteur Anthony Sauve-Moi-Vert, j'ai oublié le nom du chanteur, c'est terrible. Freddie Mercury, voilà, merci.
Oui, Freddie Mercury.
Ah, cette absence que j'ai eue, c'est absolument gênant. Surtout que, quand même, un des plus grands chanteurs de l'histoire de la musique. Donc voilà, un très très beau morceau, interprété par nos amis Yaeli Town, qu'on vous encourage à liker leur page Facebook, je rappelle. Donc, Yaeli Town qui s'écrit Yaelie, et plus loin, Town, TOWN. N'hésitez pas, on mettra le lien sur la page Neon Squad, que je vous encourage également à liker si vous ne l'avez pas encore fait, ou même à aller liker leur page YouTube. Voilà, voilà, donc, pour cette petite aparté musicale et très sympathique. Maintenant, est-ce que tu as joué à des trucs cette semaine, mon cher Anthony?
Est-ce que j'ai joué à des trucs cette semaine? Eh bien, oui. Mais j'ai joué un jeu bon, on va dire quasiment inconnu, c'est un 4X, c'est un jeu de gestion de grande gestion, et donc ce 4X c'est Europa Universalis. Est-ce que tu connais?
De nom, tu m'en as déjà parlé, je crois, mais vas-y, représente-moi un petit peu ce que c'est.
Bah tout simplement, c'est un jeu qui se déroule directement dans le passé, notamment à l'époque après le Moyen-Âge, donc de 1453 à la chute de Constantinople jusqu'en 1866, c'est-à-dire près effectivement de la révolution industrielle. En fait, le jeu, comment ça se passe, t'es sur une map monde, donc avec bien entendu tous les continents, l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Et donc tu choisis une nation, tu dois suivre en fonction directement de l'histoire, voilà l'expansion directement de cette nation. Donc par exemple, tu peux décider de refaire l'histoire, de prendre par exemple l'Empire byzantin qui s'est effondré en 1453. Et du coup, faire en sorte, par exemple, de le faire renaître en levant des armées et en combattant, par exemple, les Ottomans avec ses armées, en faisant des alliances avec d'autres grandes nations, de grands empires comme le Saint-Empire romain germanique ou la France de l'époque. Vraiment, ce jeu est très, très complet. Il y a tout un aspect économie, gestion des diplomaties, gestion des autres nations. Tu peux te faire attaquer à n'importe quel moment et te faire ratatiner comme c'est pas permis, devenir un vassal, vassaliser d'autres personnes.
Extraordinaire.
Ce jeu est vraiment, mais d'une complexité folle, mais à la fois il est vraiment super super exigeant et super addictif.
D'accord, et donc c'est très réaliste pour le coup, vu la, comment dire, c'est du temps réel quoi, au final tout peut évoluer rapidement.
Alors exactement, c'est du temps réel, tout peut évoluer rapidement, et tu peux arriver à des scénarios complètement utopistes, par exemple des nations qui naîtraient, qui n'ont jamais existé, parfois tu peux faire des parties totalement aléatoires dans lesquelles ça suit réellement l'histoire en fonction des forces présentes en faction, et donc c'est génial. D'ailleurs Universalis s'est développé par la société Paradox Interactive, et cette société Paradox Interactive a fait d'autres jeux exactement du même type, c'est-à-dire avec la map monde, du 4X, du temps réel, et du coup on peut aller donc de Crusader King, qui effectivement retrace toute l'histoire du Moyen-Âge, ensuite jouer à Europa Universalis qui effectivement va jusqu'à la révolution industrielle, jouer à Victoria qui joue justement l'époque victorienne, hein, bien entendu, et ensuite jouer Heart of Iron qui retrace la Seconde Guerre mondiale.
Excellent.
Avec les forces en présence, et même dernièrement le dernier sorti de Paradox, c'est Stellaris qui effectivement reprend le même système quasiment, avec bien entendu des subtilités qui lui sont propres, mais dans l'espace,
dans une dimension futuriste,
exactement dans l'espace où on doit aller coloniser les planètes. Tu peux avoir directement une race de robots qui va aller justement absorber des sociétés, qui va les mettre par exemple en esclavage. Tu peux décider par exemple de faire de l'esclavage, ou par exemple d'établir des démocraties sur des planètes, gérer ta population, construire des centrales,
c'est génial,
ce que tu veux. Et moi, c'est moi qui vous dis que si vous aimez la gestion, que vous avez déjà touché par exemple à du Civilization, mais que vous voulez aller plus loin dans la gestion et vraiment avoir un truc complet qui vous tienne en haleine pendant des heures et des heures, moi personnellement j'ai des centaines et des centaines d'heures sur ces jeux-là, je vous conseille d'aller voir les jeux Paradox, c'est vraiment des très très bonnes surprises.
C'est du lourd.
Ah, c'est du très très lourd. Même toi Alexis, je te conseille très très fortement d'y jouer. En plus, je ne suis pas très cher, honnêtement. Crusader King peut se trouver pour 3-4 euros.
D'accord,
le 2
vraiment...
notamment, par contre tout début faut s'accrocher, il y a au moins une dizaine d'heures d'apprentissage pour pouvoir.
Mais du coup on parle de PvE ou de PvP alors
bah c'est du PvE, c'est-à-dire que ça dépend, hein, au final là, tu peux jouer en solo, et donc de ce fait effectivement toi tu contrôles une nation, toutes les autres nations sont contrôlées par des bots. D'accord, mais tu peux aussi jouer en multijoueur, c'est-à-dire que peux faire des parties jusqu'à, de mémoire, 32 joueurs, c'est-à-dire que chaque joueur choisit sa nation et décide effectivement de faire ce qu'il veut avec sa nation.
Et donc on peut faire des alliances, quoi, concrètement.
Ah, tu peux faire des alliances, imaginons je prends la France, toi tu prends la Russie de l'époque qui n'existait pas, mais bon, tu essayes de recréer par exemple la Russie de l'époque en colonisant toutes les terres de la Sibérie, on peut faire une alliance et décider d'envahir l'Europe à deux.
Extraordinaire, mec.
Faire ce genre de
truc. Mec, c'est super intéressant, là, ça me motive, hein, mais à jouer à plusieurs, tout seul, pas forcément. Je suis pas un gros amateur de jeux de gestion, j'avais joué un peu à Warcraft 3 Frozen Heart, qui d'ailleurs va connaître un remake bientôt, je crois.
Ah, tout à fait, un gros remake.
Ça aussi, ça va être un jeu très, très attendu. Hein.
Ah, clairement.
Parce que bon, on est tous passés quelques heures à chaque LAN sur ce jeu.
Warcraft 3, c'était
la vie. Hein.
C'était vraiment la vie. Ça a posé pas mal de bases aujourd'hui et
bah pour les jeux comme League of Legends. Hein.
Ah bah clairement.
C'est la base la base même de League of Legends.
Tout à fait. Hein. D'ailleurs à ce niveau-là, moi je suis quand même un peu triste en ce moment de cette disparition un peu des jeux de gestion de la scène.
C'est
Il y a
vrai.
Plus trop de jeux de gestion qui sortent ou ils sortent assez rarement. Avant, il y avait énormément de ce qu'on appelait les jeux de gestion, les STR aussi. Il y en a beaucoup moins à l'heure actuelle. C'est un genre qui se perd un petit peu et ça me fait un peu mal.
Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est compliqué avec ce type de jeu à l'heure actuelle. C'est leur dimension e-sportive parce qu'au final, c'est compliqué de forcer les mecs à regarder. Enfin, forcer, c'est un bien grand mot, mais de demander aux gens de se focaliser pendant plusieurs heures sur une même partie qui peut être un peu lente à regarder. Alors même pour les passionnés, c'est super intéressant. Moi, j'adorerais regarder ça. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas forcément accessible.
Ça suit tout simplement l'évolution de nos sociétés. Maintenant, on veut tout rapidement, vite. On n'a pas le temps.
Regarde Fortnite, enfin, ça dure très peu. Les parties sont très courtes.
Voilà, c'est des parties très très courtes, donc ça intéresse le joueur, le personne qui regarde du stream de ça, il peut rentrer du boulot, ou rentrer des cours, aller regarder directement une petite session de Fortnite de son streamer favori, rigoler un bon coup,
ça.
Et puis après, hop, repartir à ses occupations. On a pas forcément le temps de regarder des games de jeux de gestion directement pendant des heures et des heures, hein, donc et au final les jeux de gestion à l'heure actuelle, leur seul moyen en quelque sorte pour avoir une publicité ou un marketing décent, c'est finalement de miser sur cette dimension e-sportive. Et au final tu vois que les derniers jeux de gestion qui sortent se simplifient de plus en plus au final et deviennent de plus en plus simples malheureusement pour provoquer, pour mettre en place du jeu rapide. C'est un peu dommage, moi j'aimais bien les jeux de stratégie vraiment très exigeants. Voilà.
Non mais si mec, c'est cool, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est dommage et que au contraire ça permet aussi l'e-sport, c'est quelque part aussi, je trouve que il faut quand même une certaine élite. C'est comme dans le sport traditionnel, il y a des joueurs qui sont vraiment très bons, il y a des jeux beaucoup moins accessibles. On pense moi au curling. La dernière fois j'ai regardé un tournoi de curling, c'est super intéressant et c'est vrai que a priori quand j'ai vu ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Mais c'est super intéressant, il y a un côté très stratégique, très technique.
Exactement.
Et c'est un petit peu sous-coté et je trouve que ce serait bien de les mettre plus en valeur. Et du coup, Farming Simulator, on en revient toujours, c'est notre fil conducteur
notre
de la soirée.
Rouge, hein, clairement.
Farming Simulator qui met en avant un jeu qui est peut-être connu pour une certaine communauté, mais qui n'est pas le plus connu des jeux, ni le plus accessible. Et du coup, c'est cool quand même. C'est cool.
Ah, clairement, c'est cool. Après, est-ce que ça va perdurer dans le temps?
Ça, je sais pas.
Voilà, faut voir. Et est-ce que ce sera intéressant à regarder? Faudra voir. Après, je pense que tout peut être intéressant à regarder. C'est pas la question, mais est-ce que ça va déplacer des foules? On verra. En fait, c'est ce déplacement de foules, je pense, dans l'e-sport qui déterminera si un jeu restera ou pas dans ce type de configuration.
Je sais pas. Après, il y a plein de trucs, hein, des tournois e-sport. J'avais vu une fois un reportage sur, il y avait un tournoi e-sport de Wii Bowling. Enfin, tu sais, Wii Sport, le jeu bowling.
Ah ouais.
Et ça, il y a des Just Dance aussi, des tournois de Just Dance.
Ah ça, les tournois de Just Dance, c'est plutôt sympa. Il y en a énormément dans les Japan Expo et dans tout ce qui est les conventions d'animé.
Il y a de l'argent à gagner en faisant ça.
Ah ouais, j'ai vu ça et effectivement, c'est plutôt pas mal. Hein, même
mais
si
ouais, là, j'avais vu une petite mamie là qui avait remporté son concours de Wii Bowling, c'était génial. Elle était super contente et tout, je trouvais ça super cool. Mais l'e-sport peut prendre différentes formes. C'est toujours sympa. Mais bon, donc il est 21h47, il nous reste encore 7-8 minutes, on va s'écouter un petit morceau de musique avant de conclure sur cette magnifique session, comme d'habitude, remplie de bonne humeur et de joie et d'information. Et on va s'écouter tout de suite Cavaliers, mon accent est absolument affreux.
Cavaliers,
de Mansfield. Et on se retrouve juste après sur Radio Plus.
Forcé de ramper pour moi à quatre pattes dans leurs armures. Ils se traînent dans les bois, ils meurent d'amour sans foi. Je souhaite qu'ils n'y arrivent pas, de vains efforts avant le trépas. peur de demain. Donc j'aime la nuit, mais j'ai peur du matin. Donc j'aime la nuit, mais j'ai peur du matin.
Oui, toujours sur de plus dans Neon Squad. L'émission touche à sa fin, il est 21h50. On a passé encore un très bon moment avec vous, chers auditeurs. J'espère que vous également, vous avez passé un très très bon moment, que vous êtes très satisfaits de ce contenu comme toujours. On rappelle qu'on a pu écouter nos amis de Yali Town tout à l'heure qui ont repris Bohemian Rhapsody. On vous encourage toujours à liker leur page. Et ensuite, on a parlé pas mal de choses, mon cher Anthony. C'était une soirée encore chargée.
Tout à fait, une soirée bien chargée. Bien chargé, j'ai senti de la passion vraiment dans cet échange qu'on a eu, dans ces échanges qu'on a systématiquement.
Arrête Anthony, tu commences à me faire de l'effet à parler de passion comme ça. C'est vrai que tu me laisses rêver, mais non, mais voilà, on espère que ce contenu vous plaît toujours. N'hésitez pas à liker la page, à partager un maximum, à mettre en avant le contenu qu'on y diffuse. En tous les cas, en plus la fibre arrive bientôt, on va faire du contenu Twitch très prochainement. Vous allez voir, ça va être cool, on va bien se marrer. Bonne ambiance comme toujours, dans la bonne humeur. On va avoir aussi notre ami Robinski qui va bientôt revenir de son voyage scolaire à Rennes qui est un peu longué, et ce cher Benoît Maketovic qui est devenu joueur de Tetris professionnel en Irlande à l'heure actuelle. Pas du tout, il est pas joueur pro de Tetris, d'ailleurs ça n'existe pas encore, j'ai bien précisé, pas encore, parce qu'on peut toujours être surpris avec l'e-sport. Mais voilà, maintenant on va se laisser sur un petit morceau dont on a parlé brièvement la semaine dernière. On va écouter le dernier morceau de League of Legends qui est sorti, Éveillez-vous, Awakening en anglais, parce qu'on rappelle que j'ai un accent incroyable. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle émission de Neon Squad. Bonne soirée à tous et à toutes, et à très bientôt. Bisous bisous, ciao ciao.
The night beckons.